Donc, nous réattaquons. Je voudrais, avant que qu'on entame vraiment le débat, poser une question à Luc. C'est quelles sont pour lui justement les questions qui l'animent suite à toute cette problématique. Donc pour lui, par rapport aux algorithmes, big data, intelligence artificielle, quelles sont quelques-unes des grandes questions éventuellement éthiques ou morales que posent aujourd'hui ces bouleversements.
Il y a 30 ans, j'avais lu mon tout premier livre sur l'enseignement assisté par ordinateur de Sherry Turkle, qui d'ailleurs travaille toujours sur le sujet. Et la dernière phrase du livre, c'était la suivante. Donc, elle fait tout un développement, et puis elle termine en disant, et finalement, la question est de savoir, quand l'enfant, avec sa souris et son ordinateur, qui programme qui ? Est-ce que c'est l'enfant qui, avec sa souris, fait en sorte qu'il se passe des trucs à l'écran, ou bien c'est l'écran parce qu'il se passe des trucs qui fait que l'enfant bouge sa souris. Et donc on pose la question, c'est comme ça que j'ai envie de présenter la chose. Qui programme qui ? Et à cette question-là, il ne faut pas, je dirais, arriver avec des raisonnements logiques, il faut arriver avec un système de valeurs. Et il ne faut pas discuter. En tout cas, moi, je veux que ce soit l'homme qui programme la machine. Et je crois que c'est tout le travail qui se passe maintenant. Se décline sous cette espèce de question qui programme qui. Et on voit bien, alors là on est parti, là, les algorithmes partout, on peut parfois se poser la question, mais au fond, est-ce que Internet est notre outil ou est-ce que nous on est l'outil d'Internet, etc. Mais ça c'est ma question. Et qui programme qui, c'est pas une question de savoir un raisonnement qui donne la réponse, c'est une question, un système de valeurs. Je crois, bon, je suis intervenu jeudi devant 300 directeurs d'école, je disais la même chose. C'est, bon, on peut imaginer tout ce qu'on veut sur Internet. Qui va expliquer à l'enfant que c'est la relation, c'est lui qui va programmer la machine, point à la ligne. Donc voilà, c'est une espèce de méta-réponse qui englobe tout le restant.
Et comment est-ce que tu la relis à l'histoire que tu as faite, tes trois mariages, ton enterrement, etc. Mais est-ce qu'il y a des germes de réponse à cette question dans toute cette aventure ?
Mais je crois que la question ne s'est pas posée, disons, jusqu'il y a environ 80 ans. Elle ne se posait pas. Prenons un tout petit exemple. Le vrai et le faux. Bon, depuis toujours, il y a eu des faussaires. Chez les Romains, il y avait des fausses pièces de monnaie, des fausses tableaux, etc. Mais c'était tellement marginal, ça occupait 2-3 détectives, etc. Aujourd'hui, la question du vrai et du faux, c'est une question sociétale. Ce que je vois sur mon écran, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Et donc, je crois que ce sont des sous-questions, mais qui n'est... Bon, moi, je me souviens des trucages au cinéma, il y a 60 ans, c'était énorme, quoi. Et même, il y avait encore une photo de Mao Tse-tung qui descendait la rivière Yangtze. On voyait tellement bien qu'on avait collé sa tête avec... Bon, c'était tellement grotesque. Mais aujourd'hui, plus personne ne peut distinguer le vrai du faux. Et donc, ça veut dire qu'il y a, dans cette question qui programme qui, tout à coup, une espèce de dimension incroyable à laquelle on doit s'atteler. Voilà.
Très bien. C'est un débat bizarre, en fait. C'est un débat bizarre, parce qu'en fait, le débat que vous évoquez, c'est la question des élites et la question du grand monde. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mmh. En fait, mon fils regarde, il a 3 ans et des poussières, regarde YouTube sur sa tablette. Les recommandations que le font YouTube sont en fonction du nombre de personnes qui ont regardé, enfin de son âge, probablement, et des goûts qui assimilent, ils ont regardé. Et donc la raison du plus fort, c'est la raison du grand nombre. C'est exactement la question, et on évoquait Trump tout à l'heure, c'est la question de la démocratie, de la parce que, mais et des élites. Jadis, Aristote, c'est le bien-né, il est tout seul dans son petit truc, et puis descend par son jardin, enfin, c'est compris. Et donc, vous avez dessiné la carte de l'Empire. La carte de l'Empire aujourd'hui, c'est Trump, qui est évidemment un anti-élite. Et YouTube, c'est exactement ce paradigme-là. Et bah, je suis désolé, parce qu'on est dans un environnement d'élite, mais ou élitiste ou whatever. Mais c'est fini. C'est une époque révolue. Et donc, mon fils, il baigne là-dedans. Alors, bon, je peux me poser des questions éthiques, etc. En attendant, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, Dieu de l'Olympe, c'est moi. Et à un moment, je lui dis, tu regardes pas ce truc débile, parce que c'est ma conception passéiste, archaïque du truc. Est-ce que c'est ça la vraie ? Et donc, c'est vrai que ça fait peur, ce type et son approche de gourou stratégique. Mais il a raison. La preuve, il ne s'est pas trompé. J'entends bien. On est dans la caricature. Mais. Pardon.
Oui.
Oui. J'aime bien repartir de l'exemple que vous avez donné. Est-ce que c'est l'enfant qui programme la machine ou est-ce que c'est la machine qui programme l'enfant? Ce qui est très, moi je dis entre guillemets. Aujourd'hui, la question, est-ce que c'est l'enfant qui programme la machine ou est-ce que c'est les 10 personnes qui ont programmé la machine qui programme sans l'enfant?
Voilà.
Cette question-là, on ne se pose pas et c'est peut-être là qu'elle est. Ouais. Et la question, c'est plus une question de machine.
Doubler, c'est beaucoup une question de seuil. Même les ingénieurs de Google reconnaissent ne plus comprendre totalement comment fonctionne Google. Donc c'est quelque chose. Bon, il y a au début de l'informatique que j'ai connu. Bon, en gros, on comprenait ce que la machine faisait. Il y avait un problème, on traquait et finalement on comprenait. Mais là, il y a un seuil. Aujourd'hui, les systèmes sont tellement complexes qu'on ne comprend plus. Et donc, c'est comme le vrai et le faux. Il y a comme ça des dizaines, bien plus, de seuils qui permettent, qui font qu'on est en risque d'être lâché. C'est ça le problème. C'est ça le, et donc, comment est-ce qu'on doit faire? Bon, ça, c'est justement l'objet du débat.
Est-ce qu'il peut y avoir derrière ça une volonté de contrôle des gens ou des populations, comme vous voyez derrière ça?
Mais bien sûr qu'il peut y avoir. Bien sûr. Tout algorithme répond à un projet.
Oui, mais c'est ça que vous voulez dire, le projet qui est derrière. Et qu'est-ce qui dit que c'est notre projet qui va, entre guillemets, réussir plutôt que d'autres?
Ah oui.
Pense à d'autres projets, d'autres cultures.
Mais justement, on voit bien qu'il y a des choses qu'on pourrait demander. Ne fût-ce qu'avoir une connaissance, comment sont construits les algorithmes. Rien que ça, c'est incroyable qu'on ne l'obtienne pas. Donc, simplement... Moi, si vous voulez, je dis toujours l'exemple, quand je vais au restaurant et que le type me dit « Ah, voilà, formidable, on a aujourd'hui du poisson. » Bon, il sait que j'aime le poisson. Je me sens bien accueilli et bon, je trouve que c'est très bien. Mais au moins, je sais comment il fonctionne. Mais maintenant, sur Google, on me propose du poisson, je ne sais pas du tout pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on m'a... Bon. Et donc, ce côté boîte noire est insupportable. Oui. On devrait pouvoir connaître, et ça, c'est explicable.
Mais ça, c'est une question fondamentale. Steve Ray, je pense, O'Ray, qui est un grand penseur de tout ce qui est justement les algorithmes, dit « La grande question pour notre siècle, c'est de savoir quelle boîte noire auquel on va faire confiance. À quelle boîte noire allons-nous faire confiance ?» Parce que la problématique des algorithmes est aussi la suivante, c'est que pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'on ne les voit pas ou qu'on ne les... pressente pas, parce que sinon on adapte son comportement en fonction de ce qu'on croit comprendre de l'algorithme et on le fausse.
Libre arbitre.
Donc il y a une logique dans le fait que Google dise vous ne pouvez pas connaître mon algorithme, et ils passent leur vie à essayer de déjouer ceux qui commencent à le comprendre. Donc il y a là un paradoxe aussi intéressant.
Ah oui, c'est sûr. Mais par exemple, comment les algorithmes comprennent le silence? Bon, ça pose une question, je réponds pas. Comment c'est compris? Et c'est très important. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas d'accord? Est-ce que ça veut dire que... Bon, je ne sais pas comment ils font. J'ai aucune idée. Ou l'humour. Hein, si vous dites Hollande, génial. Bon. L'algorithme comprend comment. Voilà, c'est ça. Et moi, je voudrais savoir comment c'est construit. Et ça, c'est explicable.
Mais ça fonctionne. Enfin, vous connaissez le machine learning. Comment fonctionne-t-elle concrètement? C'est plus validé sur le plan académique. Hein.
Ah non?
Ben voilà. Donc, le modèle s'auto-alimente, et ça marche, donc c'est la logique.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça marche?
C'est-à-dire que l'ingénieur dit, ok, au niveau du le modèle prédictif, fonctionne. Donc, au niveau du modèle prédictif, ça fonctionne. Alors, il y a différents types de modèles, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça marche, ça prédit. C'est ça qui préoccupe le marché.
Oui, mais quelle machine va dire ce que l'enfant doit avoir comme compétence? C'est là le point de départ. Comment?
Est-ce qu'en tant qu'adulte, nous ne faisons pas la même chose? Est-ce que nous ne programmons pas nos enfants? Alors, prétendre à une certaine forme d'autonomie ou de liberté de l'enfant face à l'ordinateur qui, de toute façon, transmet des messages qui ont été conçus par des adultes.
D'accord. Il y a un peu un double lien aussi. Hein, un peu d'initiative. Sois libre.
Claudine, oui. Il y a deux sujets sur qui programme qui. Effectivement, est-ce qu'on ne programme pas nos enfants? Est-ce que la Wallonie ne programme pas des élèves wallons qui sont très mauvais au PISA? Bon, bref. mais en même temps, évidemment, on ne parle pas de la même échelle. Moi, je voudrais revenir sur on ne comprend pas. Je voudrais qu'on se rappelle ce qui s'est passé avec la crise des subprimes et la crise financière. C'est très simple. C'est qu'on interviewait un type qui était responsable de la salle des marchés. Et le gars, il savait même plus ce que c'était que l'outil.
Ah bah oui.
C'est-à-dire que non seulement on avait Donc on a plein de... Moi j'ai vécu, je suis belge, mais j'ai vécu 24 ans en France. Plein d'ingénieurs français sont partis dans les banques à New York, des mathématiciens qui n'étaient pas très intéressés par la banque, mais qui étaient intéressés intellectuellement intéressés par la complication des produits financiers. Donc ils ont fait ces trucs auxquels personne ne comprenait rien. Là-dessus, on a rajouté une couche algorithmique à laquelle plus personne ne connaissait rien. Et les gens qui étaient censés utiliser et manager l'argent qui leur était confié comprenaient rien au carré. Et donc finalement, bam. Donc aujourd'hui, je ne fais pas de plan sur la comète, sur ce dont, sur les algorithmes en général. Ouais. Mais cet exemple-là de la non-compréhension de la logique derrière, la question c'est on veut savoir quoi. On a un exemple très simple qui est la crise financière.
Oui, je suis très contente. On a eu un débat donc dans ma boîte, c'était en 2008. Hein, en 2009, il y avait un débat dans la société, à notre réunion d'associés, pourquoi ça s'est passé. Et c'était toujours le problème de la causalité. Il y en a qui ont dit parce que les subprimes. Il y en a qui ont dit pas du tout. C'est parce que Moody's n'a pas fait bien son boulot et n'a pas. Il y en a qui ont dit pas du tout. C'est parce qu'on autorise de spéculer contre les États. Mais non, pas du tout. Parce que, etc., etc. Et il y a le partenaire chinois qui a levé sa main. Donc j'aimerais bien demander à les partenaires. Et il a dit devant tout le monde, vous les occidentaux, vous êtes toujours au stade de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est la poule qui a causé l'œuf ou c'est l'œuf qui a causé la poule? Et il a rajouté, nous en Chine, on mange les deux. Alors, tout le groupe a rigolé, mais en fait c'est terrible, c'est terrible. Parce que ça veut dire quoi? Et en fait c'est de nouveau une question de seuil. Peut-être que nous avons grandi avec cette idée toujours aristotélicienne de la causalité A donc B. Pourquoi il a fait la théorie des causes? Parce que ça lui permettait de prévoir si sa théorie était juste. A donc B, oh il y a A, vous savez quoi? Il va y avoir B et je deviens un devin. Et peut-être qu'aujourd'hui, un des seuils, c'est qu'on sort d'une époque où on peut encore expliquer les choses. Plutôt que A donc B, le paradigme c'est A virgule B et je fais quoi? Hein, bon. Quand on entend à l'aéroport quelqu'un qui est au micro, là, l'avion de Bruxelles est en retard suite à l'arrivée tardive de l'appareil, c'est de dire l'avion est en retard parce qu'il est en retard. Hein, donc, on peut aller. Donc, non, on voit bien, et je crois que c'est très important. Et le subprime, c'est vraiment important. D'ailleurs, je crois que Trump doit son succès au subprime. Je lisais, j'étais à Chicago, le type qui disait à la télévision, moi, j'ai dû vendre ma maison et on a sauvé les banques qui m'ont mis dans cette merde. C'est comme ça qu'il parlait. Et donc, c'est extrêmement... Et la crise financière, on n'en est pas sorti parce qu'on est encore... On essaie encore de trouver la cause. C'est fini. Et ça me permet d'abonder sur une autre question qui a été posée là tout à l'heure sur les corrélations. Et là, ça vient aussi de la philo. Quand il y a deux événements, A et B, il y a quatre niveaux de liens possibles. Le premier niveau... Je fais court. Le premier niveau, c'est la coïncidence. La coïncidence. Par exemple, si au journal télévisé, on dit les deux premiers titres... Bon, Samsung a lancé une nouvelle montre connectée et l'équipe de Belgique a battu celle du Maroc au football. Bon, A et B. On parle de lien qu'on peut faire. Mais l'homme n'aime pas ça, n'aime pas ça. Directement, il va chercher un peu plus loin. Si les deux premiers titres sont « Hier, gros orage sur la capitale et l'équipe de foot a battu celle du Maroc au AZ », directement on se dit « Oui, ils n'aiment pas la pluie ». Ils n'aiment pas, pas la boue. C'est, directement, on cherche à mettre du sens. Et alors, on arrive au deuxième. Il y a quatre C. Et le deuxième C, c'est la corrélation. La corrélation. Et je réponds à une question qui a été posée tout à l'heure, qui est quand même très importante. La corrélation, qu'est-ce que c'est? C'est un lien statistique. Effectivement, il y a de ça quand il y a ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un lien statistique, par exemple, entre la production des prix Nobel et la consommation de chocolat. Bon. Les pays où on consomme beaucoup de chocolat, il y a beaucoup de prix Nobel. On est encore bien loin de la causalité, même s'il y a un lien statistique, c'est la corrélation. Et je crois que Big Data, pour les corrélations, va être très très puissant, parce qu'il y a un outil. Mais on n'est pas du tout encore à la causalité. Le troisième C, c'est la conjonction. Et la conjonction, c'est une corrélation à 100%. Par exemple, quand il y a un éclair, il y a du tonnerre. Bon, 100%. Donc c'est une corrélation totale. Mais on n'est toujours pas dans la causalité. On ne peut pas dire que l'éclair est la cause du tonnerre. La causalité, c'est le quatrième stade. C'est-à-dire, là, on peut vraiment dire, quand le soleil se lève, le coq chante. D'accord, c'est causalité. Mais qui dit que ce n'est pas l'inverse? que c'est qui, comment prouver que ce n'est pas le coq qui, en chantant, fait que le soleil se lève. Et on est très... Et Jung, pour ça, je termine, parce que Jung, pour ça, il est très fort. Il dit, en fait, si je prends, par exemple, un vase, je le lâche, paf, il casse. On croit qu'il a cassé parce qu'il a chuté. Mais en fait, qu'est-ce que les sens perçoivent? Le temps et l'espace. Ça dure une seconde et on voit qu'il est tombé d'un mètre cinquante. Mais la causalité, elle n'a rien pas. On l'a produit. Et c'est ça Kant. Kant, il met la causalité comme une catégorie a priori de l'entendement.
Oui, mais
et
donc, vous ne vous rendez pas compte que ce que vous dites est vraiment terrible. Attendez.
Sans rencontre.
Mais non, mais on a à peu près la même formation.
Ouais.
Et vous venez de dire, alors que vous êtes diplômé en mathématiques appliquées, vous êtes ingénieur, j'ai commencé à réfléchir à la causalité-corrélation en ayant fait de la philosophie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu 4 ans après des études d'ingénieur pour commencer à réfléchir à ça. Et nous, ici, on est en train de se demander Big Data, machin. Mais c'est le bordel total. Ça veut dire que dans des études mathématiques d'ingénieur où ce genre de choses, la part de la statistique... Ouais. doit être maîtrisé, ça n'est pas. Et après, on s'étudie pour ces.
Mais ça, parce que ce que disait Paul, comme le volume du savoir augmente, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on enseigne. Exactement. Et bien, moi, je crois qu'on doit enseigner beaucoup plus le comment que le quoi. Ouais. Comment on pense plus que quoi
donc
penser.
Vous trouvez que les ingénieurs de Google ne maîtrisent pas ce que vous dites.
Mais c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. Ils disent eux-mêmes qu'ils ne comprennent pas le truc. Oui, mais je voudrais permettre encore un truc sur Big Data, parce que c'est aussi une question qui a été posée et j'y réponds. De manière schématique, je crois que Big Data peut nous aider à découvrir, mais pas à inventer. Oui. Je reviens au truc de tout à l'heure. Et je vais donner deux exemples, qui sont Kepler et Darwin. Bon, tous les deux, d'abord, rappelons une chose, qu'il y a beaucoup, beaucoup de grands génies qui n'ont pas utilisé de data du tout. Bon, hein, Freud, Aristote, j'ai parlé, enfin bon, Léonard de Vinci, vraiment. Donc, commençons par ça. Dans ceux qui ont utilisé des data, il y a quand même deux grands groupes. Par exemple, si on oppose Kepler et Darwin, Kepler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bénéficié des travaux d'un certain Brahe, qui a cartographié le ciel. Je vois comment il a fait, il n'a pas dormi pendant 2 ans, bon, il avait tout le matin. Et qu'est-ce qu'a fait Kepler? Il a dit, waouh, il a vu les ellipses. Darwin, son big data, c'était quoi? 5 ans de notes, hein, il a tourné le monde sur son bateau, là, le beagle, pendant des notes, ça c'est le big data. Bon. Et puis il a fait, waouh, la sélection naturelle. La grosse différence, c'est que l'ellipse existait depuis 2000 ans. Apollonius, du temps des Grecs, il a coupé un cône de travers. Hein, donc ça, c'est le cercle. Si on fait comme ça, on a une ellipse. Donc qu'a fait Kepler? Il a rapproché quelque chose qui existait en lui de lui en face. Darwin, non. Je ne vois pas très bien l'équivalent. Et donc, peu importe où est la frontière, moi, je crois que tous les Kepler sont remplacés définitivement par Big Data. Bon, ça c'est... Par contre, il restera toujours la création du concept. Moi, je suis convaincu qu'un ordinateur ne peut pas conceptualiser. Parce que j'ai encore donné 2 exemples, montrer les limites du big data, ce que je crois. La comptabilité en partie double. Donc, jusqu'à la Renaissance, on faisait la comptabilité en partie simple. Donc, on faisait les plus et les moins dans la même colonne, hein, comme un tiroir caisse. Il y a quelqu'un qui paye, puis je dois payer de mazout, etc. Bon. Et puis, un jour, un gars qui s'appelle Pacioli, qui a en 1500 quelque chose, a dit, tiens, moi, j'ai une super idée, on va faire tout en double. Imaginez, chef, j'ai besoin d'un adjoint, parce qu'on va tout faire 2 fois. Bon. C'est génial. Mais comment voulez-vous qu'une machine propose ça? Et un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est Quetelet. Quetelet, dont on parle par beaucoup, qui est né à Gand, qui est un mathématicien, statisticien, météorologue, qui a fondé l'observatoire d'Uccle. C'est lui qui l'a inventé. Il est connu dans le monde entier, enfin le monde un peu académique, comme étant celui qui a importé les mathématiques dans la sociologie. Et bien, par exemple, il a inventé un concept comme l'IMC. Donc l'indice de masse corporelle, bon, qui est encore utilisé aujourd'hui, notamment dans les concours de beauté, pour lutter contre l'anorexie, etc. Enfin, peu importe. Eh bien, on voit bien qu'il y a toute une différence entre rapprocher un concept existant du big data, vive la découverte et fini Kepler, bon, il y a le big data, par opposition à sortir un concept. Et conceptualiser nécessite de la distance, nécessite un oubli. Et moi, je suis convaincu qu'une machine ne peut pas conceptualiser. Or, le concept, c'est la brique, c'est l'atome, c'est le fuel de la pensée. Et donc la frontière, c'est là que je la mets. Là, je réponds ainsi.
Peut-on aller en disant que justement le big data pourrait diminuer notre volonté ou notre capacité à inventer?
Qui programme qui? qui programme qui? Quel est le projet de vie que nous avons? Moi, je crois qu'effectivement, l'intelligence artificielle existera si on renonce à utiliser la nôtre. C'est de manière schématique ce que je pense. Et il y a un danger, et c'est ta question. Du moins au fond. Ah bon, et au fond, Et alors, l'intelligence. Mais là, c'est terrible.
Vous avez l'objection de valeur là.
Quand?
Objection de votre honneur, on a dit qu'une machine ne peut pas conceptualiser.
Je crois.
Finalement, nous sommes des machines.
Ah, ça, c'est une grosse question.
Si on réplique la structure moléculaire, s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Ou...
Voilà, mais là, on touche à Descartes.
Pourquoi est-ce qu'une machine ne pourrait pas conceptualiser?
Je voudrais apporter une notion qui va dans le sens de ce que vous dites. Il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup utilisé aussi, une distinction qui me paraît intéressante, c'est l'idée du réductionnisme et de l'émergence. Donc, dans l'histoire des mathématiques de la logique, de manière générale, les gens qui ont analysé les choses ont eu une démarche réductionniste, le grand champion étant Descartes qui dit face à un grand problème, je le réduis en problème moyen, plus petit, etc. Mais beaucoup de progrès et de ruptures dans l'histoire de la vie et de l'humanité sont tout l'inverse du réductionnisme, ce sont des phénomènes qu'on appelle d'émergence. Et quand est-ce qu'il y a de l'émergence? C'est lorsque quelque chose apparaît à partir des structures qui préexistaient, mais le comportement de la chose qui est apparue ne peut pas être compris et analysé en comprenant ce qu'il y a en dessous. Pour donner des exemples évidents de ça, la chimie permet de comprendre des tas de choses, et la biochimie est construite sur la chimie, mais la vie, qui est en gros de la biochimie bien organisée, ne peut pas être expliquée en décrivant les lois de la chimie. Ce qui s'est passé, c'est que la vie est, bien entendu, la manifestation numéro un de l'émergence. Dans le domaine des mathématiques, il y a des choses très amusantes du côté de l'émergence qui sont les, comment est-ce qu'on appelle ça, les machines vivantes et les dessins qui se reproduisent. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais quand on parle de big data, d'ordinateur, ou quand on dit que nous sommes des machines ou qu'il y a des machines pensantes qui se mettent en action, ce qui se passe, c'est que les ordinateurs de Google et probablement un certain nombre d'autres sont occupés à passer par la phase d'émergence. Ça veut dire qu'ils échappent aux couches d'explication qui leur préexistaient, qu'ils s'organisent suivant la logique qui leur est propre, et donc que des ordinateurs pourraient fabriquer des ordinateurs, que des algorithmes pourraient fabriquer des algorithmes qui peuvent se reproduire entre eux et qui peuvent réorganiser une complexité équivalente à celle de la vie. Ça, c'est le scénario type. Mais selon moi, dans beaucoup de ces débats, des questions qui ont été posées, la question de l'émergence est cruciale. Avec, bien entendu, comme multiples questions qui tournent autour de ça, ce qu'il y a l'émergence de quelque chose qui est plus puissant qu'une espèce vivante, y compris la nôtre, elle est aussi capable de nous faire autant de mal que ce que nous avons fait à d'autres structures qui ont émergé avant la nôtre.
Une petite j'insiste par rapport à cette question sur est-ce que nous sommes des machines ou pas, et sur ta réflexion, on aura un séminaire qui va traiter du transhumanisme, que vous connaissez peut-être pour certains, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout ce mouvement, pour faire simple, qui veut tuer la mort. Et qui est derrière, fondamentalement, Kurzweil, dont parlait tout à l'heure Luc, et Google, qui est le premier employeur au monde de bio-ingénieurs. Ils veulent développer, en fait, des êtres qui seraient transhumains, donc au-delà de l'humain, et qui est basé en partie sur cette conception de l'homme, qui serait donc une machine perfectible, ou en tout cas qu'on pourrait dépasser via... justement le big data, les algorithmes et ce genre de choses. Donc,
en tout cas, supposer que l'homme est une perfection et la dernière,
non.
Ça paraît quelque chose d'un peu...
Ce n'est pas le but.
Naïf, on peut imaginer que des personnes qui ne sont pas paralysées par des sentiments religieux puissent imaginer que des structures soient conçues et émergent avec d'autres objectifs plus ambitieux.
C'est là où le raisonnement cartésien, ses limites, hein, c'est la fameuse preuve ontologique de Saint-Anselme, avec l'imperfection, quand il sort de la SXSA, etc. Et donc, lui, il répond, il dit, ce n'est pas une machine, parce que Dieu, perfection, la notion qui est en moi, la notion de l'infini, etc. Mais finalement, ça rejoint des questions très intéressantes et qui ne sont pas abordées ici, de mon point de vue. C'est la question théologique. Et donc, j'y reviens par rapport au Socrate qu'on a évoqué. Il y a une option, un point de vue de la finance, qui est la finance islamique, qui dit que le hasard ne peut pas être maîtrisé. C'est ça le problème des subprimes. Fondamentalement, ils ont essayé de slicer le truc pour faire en sorte qu'à un moment, il n'y ait plus de risque. Et en réalité, c'était du bullshit et ils exportaient le risque américain sur le continent. Ça, c'est la réalité vraie géopolitique. Mais bon, je mets ça entre parenthèses. Et donc, ils éliminent le hasard. Et quand on élimine le hasard, on s'avance
à faire.
Voilà, voilà. Mais donc, c'est toute la question. Et est-ce qu'on ne rivalise pas un peu avec Dieu? Mais bon, ça, on aborde un autre sujet. Mais c'est... On est au cœur du
truc. Ça rejoint l'hubris, l'hubris qu'on a abordé lors d'un séminaire précédent et qui est, à mon avis, au cœur de ce rêve fou, un transhumaniste, et aussi de croire que les algorithmes, que le big data, l'intelligence artificielle va permettre des monts et des merveilles. Hein. Et on le sait, l'hubris, d'ailleurs, c'est intéressant de voir hubris, mais bon, c'est intéressant. L'hubris va toujours de pair avec la némésis. Et la némésis, c'est la destruction totale. Donc il y a là des questions très profondes qui datent aussi de l'humanité.
Moi, je crois qu'il faut rajouter quelque chose. Je dis ici, on est vraiment dans l'éducation occidentale. Et donc, on pense comme ça qu'on cherche la cause. Et donc, depuis Aristote, on vous apprend qu'on fait des catégories, qu'on divise tout, et quand on divise tout, on a la dernière. Tous les modèles actuellement, qu'ils soient dans la finance, dans les subprimes, etc., les gens ne cherchent pas à expliquer ce qu'ils font, ils font les choses pour que ça fasse ce que l'on veut voir. Donc ça veut dire que les modèles, ils ne cherchent pas à vous expliquer quelque chose, ils ne cherchent pas à venir. Ils essayent à corréler la réalité. Et donc ça veut dire que c'est normal que l'ingénieur de Google, pour l'ingénieur de Google, c'est normal de ne pas comprendre ce qu'il fait. Ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est de comprendre si le modèle correspond à ce qu'il voit. Et donc c'est un changement. Mais ça, c'est parce qu'en fait, depuis la cinquième primaire, parce que visiblement dans l'enseignement ça peut être un change, on vous apprend à tout découper. Et à tout découper comme les Grecs le faisaient. Comme la langue française, anglaise, les Indo-européennes poussent à faire. C'est pour ça que les Indiens et les Chinois, etc., ne pensent pas comme ça. Et donc l'avantage qu'on a eu avec le lien entre le langage et la pensée que les Grecs nous ont donnée jusqu'à présent est en train de diminuer par rapport à la gestion de la complexité pour laquelle elle n'est pas adaptée. Et peut-être que les signes chinois ou les signes indiens, encore que les Indiens sortaient d'eux, permettent de mieux appréhender ça. Moi, je suis toujours impressionné, pour avoir travaillé avec des Juifs, de la capacité d'intelligence et d'apprentissage de ces gens-là. Quand vous travaillez, j'ai eu des gens de l'université de Jérusalem qui sont venus. Je me suis toujours demandé si la manière d'apprendre l'hébreu, etc., ne leur donnait pas une autre manière de penser que notre manière. Et donc, ils sont en avance. Et donc, je pense qu'il y a des moments où les pensées... Non, je te le dis. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il semblerait que la manière dont ils pensent est mieux adaptée à nos problématiques actuellement.
En tout cas, c'est autre, c'est sûr. Mais sur l'idée de la catégorie, c'est intéressant parce que probablement que l'idée la plus importante de toute d'Aristote, c'est l'idée de la catégorie, qui était la révolution totale contre Platon, qui refusait là. Une catégorie, c'est une simplification. Donc, ça fait le restaurant ou le consultant ou la maison, bien sûr, c'est une simplification. Alors, on perd beaucoup dans la nuance, mais grâce à ça, grâce à l'idée même de catégorie, il a pu faire la logique. La maison est grande, j'aime le grand, donc j'aime la maison, etc., etc. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on tape sur Google, par exemple, le philosophe, Google propose des catégories. Et ça, c'est une énorme révolution. Parce que s'il y a bien une responsabilité, c'est tout le problème du classement. Bon, quand on voit par exemple l'encyclopédie française, c'est organisé, enfin, on ne peut pas penser sans catégoriser. Et effectivement, et ça, c'est très vrai, c'est la première fois qu'il y a un système qui vient en proposant des catégories. Philosophe grec, philosophe contemporain, philosophe je ne sais quoi, etc. Donc là, il y a quelque chose qui se passe, et c'est tout à fait vrai.
Ouais. Je pense que cette proposition vient plus de l'intelligence. Dans ce Google, évidemment, ils utilisent Big Data. Ils disent que quelles sont les catégories utilisées globales.
Oui.
Ils les reprennent. Parce qu'avant, c'est aussi des traducteurs. Avant, ils ont essayé de travailler sur la logique, mais ça n'a jamais marché. Parce que maintenant, Google, en fait, reproduit.
Oui. Mais prenons des choses simples. Pourquoi, si on demande à quelqu'un combien de couleurs dans l'arc-en-ciel, qu'est-ce qu'on dit ? 7. C'est ce qu'on dit d'habitude. Pourquoi ? Pourquoi c'est 7 ? Pourquoi pas 8 ? Il n'y a aucune science là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, je dis souvent l'exemple, imaginez vous êtes romancier et vous faites 300 pages, vous êtes content du roman, c'est un bon roman. Il vous manque le titre. Vous mettez le roman dans Big Data. Il y a tout. Donne-moi un titre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va en veiller 2000. Bon, et le boulot, c'est quand même pour l'auteur. Donc, Ça, peut-être pour donner 2000, il va être utile, un petit peu. Mais comment voulez-vous qu'une machine choisisse le titre d'un roman? C'est impossible. Parce qu'il y a cette côté qui vient de là, mais pas de là.
Mais ça, est-ce que c'est pas une question de complexité, finalement? Parce que toujours, très souvent, dans l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'on met la limite à un niveau de complexité. Mais celui-là n'est jamais vraiment atteint. Il y a une chose qui me frappait, dans une université américaine, ils s'occupent surtout d'intelligence artificielle, eh bien, ils se rendent bien compte qu'à un certain moment, il faut injecter dans les systèmes des valeurs. Mmh. Bon, les valeurs, on dit ça, c'est l'homme, non. Alors, comment est-ce que les machines vont acquérir des valeurs? Et donc, il y a des départements qui étudient les comptes pour enfants, pour pouvoir voir de quelle manière, à travers des comptes, on peut injecter dans la machine des systèmes de valeurs qui vont leur permettre, par exemple, la voiture sans conducteur, savoir à un certain moment, je tue la grand-mère qui est sur la route, ou bien les 10 enfants qui sont dans la voiture. Oui. Ce genre de choses. Les systèmes de valeurs.
Mais qui programme qui? Voilà. Quelles sont les valeurs de ceux qui programment?
Donc, c'est jamais dans la complexité qu'on a fait la différence, parce que ça, c'est l'enjeu, et c'est court. C'est est-ce que c'est pas là dans la volonté, quelque part, et où est-ce qu'on l'avait?
Ah oui. Voilà. Regarde Tintin. Nous, on a tous grandi avec Tintin. Il y avait les Sildaves et les Moldaves, etc. On a construit tout le communisme, tout ça dans Tintin, avec le gentil roi qu'on allait sauver, etc. Bon, le Walt Disney, c'est la même chose. Il y a des choses qui passent, hein, donc on voit bien que c'est tout un projet de société. Et c'est là qu'il faut travailler. Et à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a pas de machine, il y a des gens qui décide qu'est-ce qu'on fait,
Décider.
Comment?
Décider.
Oui, éventuellement décider. Mais surtout, c'est, bien sûr, c'est les valeurs l'essentiel. Parce que, de nouveau, les définitions. Qu'est-ce qu'une valeur? Je vous propose une définition. Une idée que l'on se fait de ce qui est souhaitable. Bon, au moins, ce n'est pas trop compliqué. Et c'est très... Bon, donc ça veut dire qu'on peut diverger sur les valeurs. Dans un truc, je pense à un autre. Mais au moins, qu'on dit, voilà, les valeurs, c'est ça. Et puis, bon, mais quelles sont les valeurs sur lesquelles on va construire les choses? Et probablement, le gros changement avec Big Data, c'est pas tant nos valeurs, c'est la manière dont elles se transforment dans la société d'aujourd'hui. Moi, je ne crois pas que mes grands-parents, que j'appelle connus, aient des valeurs tellement différentes des miennes. Je ne vois pas, bon, en gros. Par contre, la manière dont ça se traduit, dans un grand cercle, en société, bon, c'est complètement différent. Et c'est là qu'il n'y a rien qui va se passer. Je ne crois pas qu'il y a un tel débat de valeurs. Tout là-bas sur le latin et le grec, par exemple. Bon, c'est pas la machine qui va dire si on enseigne le latin.
Et ça, je suis pas sûr.
Pourquoi?
Parce que, à quel stade, est-ce que, justement, à quel stade va-t-on décider? La machine peut quand même, enfin, on a dit ça depuis 50 ans, ça on ne peut pas, et puis à un certain moment, la machine peut le faire. Elle peut décider beaucoup de choses, à la limite mieux que beaucoup d'entre nous. Mais, à un certain moment, il y a des différences. Il faut, je pense, créer des différences. Elles ne viennent pas comme ça. Elles ne viennent pas dans un tas de complexité. C'est ça l'exemple des comptes pour enfants ou de la voiture sans pilote. C'est pas tout ce qui se programme. C'est vraiment tout ce qui se décide qui va jouer. Et alors là...
Comment s'organiser pour décider par rapport... à la prééminence,
c'est ça ma question.
Oui, voilà. Oui mais le mode.
Attends, parce que tu as déjà beaucoup parlé.
Là, la question sémantique est très très importante. Vous en avez parlé aussi. Et quand j'entends parler d'homme augmenté, je me dis toujours, mais c'est faux. C'est l'homme diminué. Parce que si on pense rien qu'à l'opération de traverser la route. Qu'est-ce que le cerveau fait? Il calcule la vitesse à laquelle on est capable de marcher, il calcule la vitesse de la voiture, la largeur de la route, toutes sortes de paramètres en quelques secondes, fractions de secondes peut-être. Mmh. Et puis on traverse, on sait qu'on va passer juste devant ou juste derrière la voiture. Si on a une machine qui nous permet de traverser sans danger, soi-disant, on va perdre cette faculté depuis que les machines à calculer existent. Au calcul mental, on est quasi nul là-dedans, sauf bon. Et c'est ça, je crois qu'il y a beaucoup d'idéologies dans les nouvelles technologies. Pourquoi ne pas parler d'hommes diminués si on parle de parler d'hommes?
C'est très intéressant. J'ai demandé à mes étudiants, il y a 2 ans, est-ce que la réalité peut être virtuelle? Tout le monde parle de réalité virtuelle. Et donc, question d'examen, est-ce que la réalité peut être virtuelle? Et en fait, on a toujours opposé les deux mots. Ça veut dire n'importe quoi, réalité virtuelle. Hein. Donc c'est l'approche par les mots, et c'est vrai. Mais le langage, peut-être que les Chinois ont un langage différent, mais ils découpent autrement, mais ils découpent quand même. Il n'y aura jamais assez de mots pour... le langage structure le réel, on ne sait pas y échapper.
Alors, mais ça, c'est très important ce que tu dis, et là, on aura peut-être un séminaire avec Frédéric Kaplan, qui est un spécialiste suisse, et lui, ce qu'il dit fondamentalement, c'est que Google, c'est l'avènement du capitalisme linguistique. Parce que tout est là. Ce que fait Google, c'est avant tout de contrôler les mots et de nous les imposer. Et en fait, ce faisant, il nous impose des catégories. C'est pour ça qu'il nous force à nous corriger quand on écrit mal un mot, parce que ça va rendre plus difficile le fonctionnement de l'algorithme. Mais il faut réfléchir à cette question-là de comment les mots vont effectivement influencer la réalité.
C'est la novlangue de 84, là, de bon, changer la langue pour changer la manière dont les gens pensent. Imposer une langue pour qu'ils pensent autrement. Et ça, c'est vrai. Le capitalisme des mots, je trouve que c'est un concept...
Et c'est pas par hasard que Google s'appelle maintenant Alphabet. La holding, ou je sais pas quoi, c'est Alphabet.
C'est le pouvoir, c'est le pouvoir.
Oui, il y a ça.
Sur la corrélation et la causalité, l'approche de Google, c'est de dire on a dû inventer la causalité, on ne pouvait faire que sans expérience.
Ouais.
On voyait que ça se passait comme ça, on cherchait la cause. Ouais. Maintenant, nous pouvons faire la totalité des expériences. Donc, la corrélation devient la cause. Application pratique, l'occupe de recherche américaine, on fait des cohortes de cohortes. Donc, on prend toutes les cohortes des personnes âgées, les cohortes des diabétiques, les cohortes des gens, ceux qui mangent. Et en croisant les données, on arrive à voir ceux qui mangent du poisson vont avoir moins d'Alzheimer et vont vivre plus vieux.
Oui.
Hein? Les Américains, par contre, ils font des choses différentes. Ils ont créé une cohorte de 1 million de personnes qui ont volontairement donné toutes leurs données à Google. Et Google va travailler dessus.
Ouais.
Et les Anglais, ils ont mis une boîte seule sur l'analyse de toutes les données du NHS. Et donc, on est en train d'essayer de faire ces choses-là. Et la réalité va nous dire de l'analyse de tout l'univers des possibles. Donc, on n'a plus besoin de causalité, de théorie qui explique.
Voilà, ça c'est le tout grand débat. En 2008, au mois d'août 2008, Wired Magazine a fait la couverture The End of Science.
Oh,
right. Un article d'Anderson qui est vraiment...
The End of Theory.
Je pense The End of Theory. Enfin, un des deux. La fin de la théorie, la fin de la science, un des deux. Ouais. Et cet article est très important parce que c'est la première fois que, surtout dans un magazine assez grand public, s'est posé la thèse de l'article, c'est qu'on n'a plus besoin des modèles. Ouais. On n'a plus besoin de la comptabilité, on n'a plus besoin de modèles, et dans votre métier, sans doute plus besoin de modèles. Et moi, je ne crois pas. Parce que d'abord, dire ça, c'est un modèle. C'est une simplification. Et je ne crois pas que la corrélation... C'est vrai que les corrélations, on peut les avoir dans tous les sens, mais je doute qu'on puisse faire de la science uniquement avec la corrélation. C'est pas parce qu'on sait que statistiquement, celui qui a une Toyota va aussi en vacances à tel endroit. Bon, peut-être ça suffit pour faire du business, mais pas pour gérer le monde, hein, et pas pour créer une société.
Le problème, c'est que ça marche souvent beaucoup mieux. Et c'est ça qui est, c'est ça le danger. Donc, refuser cette
c'est pas refuser.
Système sans cause, essayer de s'en extraire, ne doit pas venir d'une tentative de faire mieux fonctionner les choses.
Mais quand les ingénieurs Google disent qu'ils ne comprennent plus tout ce que font leur système...
Puisque c'est un auto-apprentissage.
Mais alors la société doit dire on veut le bouton rouge, hein, comme sur les machines, on débranche tout, là, comme disait François.
Non, la science consiste à aller voir plus loin. C'est-à-dire à partir de toutes ces corrélations-là, c'est trouver une théorie qui permet d'évoluer. Donc c'est aller au-dessus. La théorie permet de passer d'étapes, c'est-à-dire de valoriser...
Mais ce qui veut dire qu'alors qu'il y a toujours un au-delà. Et toujours un autre. Ça, je suis bien d'accord. Et que donc, il y aura toujours, quel que soit, il y aura toujours. Moi, j'aime beaucoup Borges. Hein. Donc, vous connaissez la petite nouvelle Funès sous la mémoire ? Donc, c'est l'histoire d'un cow-boy qui, il se balade. Un jour, il a un accident. Il tombe sur la tête. Et ce jour-là, à partir de ce moment-là, il a une mémoire infinie. Il se souvient de tout. Alors, il part en voyage, il revient, il rencontre un copain. Et le copain lui dit : Ah, Funès, salut, t'es revenu. C'était bien ton voyage. Et il ne sait pas répondre. Il ne répond pas. Parce qu'il ne sait pas répondre. Il ne peut pas exprimer un jugement sur le voyage qu'il vient de faire, tout simplement parce qu'il se souvient de tout. Et que donc, l'acte premier de la pensée nécessite une forme d'oubli. Et le concept n'est possible que si on oublie. Comment voulez-vous qu'une machine oublie ? Si l'oubli, c'est qu'on l'a programmé, donc ce n'est pas l'oubli. Oui ?
Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait une limite. Enfin, voilà, on est en train de parler d'éventuelles limites. Moi, je sais qu'il y a 30 ans, j'étais étudiante en philosophie, donc il y a quand même 30 ans, à Liège, dans une section de philo des sciences logiques, et on travaillait avec des informaticiens sur de la logique modale, donc des logiques parallèles, et de la fuzzy logique.
Donc l'idée, c'était pas d'arriver avec une réponse optimale de l'ordinateur, c'était d'arriver avec des propositions cohérentes avec certaines hypothèses derrière. Si après on rajoute là-dessus la modélisation psychologique, l'énéagramme, tout machin, mais moi je vois que c'est assez facile, sans être une grande spécialiste moi-même, parce que j'étais au niveau master, je n'ai pas fait un doctorat, non. C'est assez facile d'arriver avec des règles et des espèces de mondes parallèles et des, de croiser ça avec des psychologies un peu modélisées et de proposer des décisions qui correspondent à des règles qui sont définies dans le système. Et donc je suis peut-être un peu moins optimiste, quoi. Alors après, il y a la question de la création du concept. Mais
on peut,
après, on peut arriver avec des croisements de données et des propositions. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'à un moment donné, c'est un système extrêmement puissant.
Donc, il y a quelques bonnes nouvelles.
Ces histoires de logique modale, donc c'est en gros des mondes parallèles qu'on définit avec des règles différentes. On rajoute de la fusillogie, on rajoute de l'énéagramme, je ne sais pas trop quoi dedans. On arrive avec des propositions et après on fait un algorithme qui trie ces propositions derrière, bam.
Et puis, et par exemple, moi je pense beaucoup souvent à Kahneman. Bon. Il y a eu 100 prix Nobel d'économie, il y en a un seul qui n'était pas économiste. Bon, Kahneman, psychologue. Il a eu le prix Nobel il y a une dizaine d'années pour des travaux qu'il a commencé 30 ans plus tôt, etc. C'est quand même une raison d'être optimiste, parce qu'il a, forcé la communauté des ingénieurs et des financiers à admettre qu'une partie quand même de notre raison nous échappe. Et on doit vraiment lui rendre grâce pour ça, parce qu'il a au moins déstabilisé. Et forcément, il y a le revers de la médaille, c'est que les gens de Google, connaissant Kahneman, programment pour éviter, enfin c'est ce que tu disais tout à l'heure, etc. Mais donc, ça veut dire qu'il y a toujours moyen d'être, moi j'aime bien l'idée, au-delà, quoi. Et on doit poser comme principe de vie d'être au-delà de la machine. C'est devant, derrière, ou au-dessus, mais pas dedans. Parce que, et il y a des choses très simples, on revient à mon schéma, moi je trouve que dans l'enseignement secondaire, on peut faire moins de maths et l'introduction à la logique. Mais l'ABC de la logique, hein, comme on fait l'ABC de la géométrie, ne fût-ce que expliquer que le don n'est peut-être pas aussi évident, et les biais, etc. Et on peut faire de manière très rigolote. Ouais. Les biais, on peut se marrer, c'est vraiment des pièges, vous savez, toutes ces vidéos, on voit un gorille qui traverse des gens qui jouent au basket et que personne ne voit, mais les enfants n'oublient jamais ça. Et donc, je crois que, c'est ce que je disais tout à l'heure, comment on pense, c'est quelque chose qu'il faudrait essayer. Et c'est tout la différence entre le doute et l'hésitation. L'hésitation, c'est malsain, le doute, c'est sain.
Je suis d'accord avec vous, hein. Je dis juste que je suis peut-être un peu moins optimiste, mais je suis d'accord avec vous.
Oui, mais bon,
comment on pense, malheureusement, justement, il y a des études qui sont faites par des professeurs à Harvard, récemment, je ne me rappelle plus son nom, mais qui tendent à démontrer que l'omniprésence des ordinateurs aujourd'hui affecte fondamentalement notre manière de penser et pose d'énormes problèmes.
Et c'est sûr, moi quand je donne cours, je vois 300 pommes. Non. Mais bonjour, parfois il y en a 150. Par exemple, sport d'hiver. Oui. Alors, soyons optimistes, il ne bavarde plus. Donc, il fait déjà ce qu'il y a toujours des moyens. Mais c'est vrai que je me demande, parce que j'ai demandé un jour à un ami d'aller en haut de l'auditoire. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté des pommes? Il m'a un peu raconté, mais il y a de tout, mais dont mon cours. Donc, il n'y a pas que autre chose. Donc, voilà. Et c'est sûr, la manière dont on parle, je ne sais pas, il y a tout un travail sur l'attention. L'attention.
Ah oui, l'attention, donc, tout à fait.
Quand on demande quel est le business de Google, bon, les mots, j'aime beaucoup cette idée du capitalisme des mots, mais on peut très bien dire, le business de Google, c'est l'attention versus la distraction. Ouais. On peut présenter Google comme des machines de tout qu'on veut, mais au moins qu'on en parle et qu'on réfléchisse, qu'est-ce qu'on peut utiliser, etc.
Et là, on revient à ta question d'inventer. Ouais. Pour pouvoir inventer, il faut probablement avoir du temps de cerveau, entre guillemets, libre, et qui n'est pas constamment accaparé.
Du temps de cerveau libre, plus une meilleure compréhension de comment il marche. Par exemple, c'est sûr que, et on est tous, à mon avis, dans ce biais-là, on a tous tendance à croire plus facilement ce que l'on espère, et inversement, à ne pas croire ce que l'on craint. Si je ne crois pas à l'intelligence, c'est en partie parce que j'en ai peur. Bon, c'est sûr. Mais moi, je lis Kahneman, donc je sais un petit peu bien. Et on est tous dans ces jeux-là. Mais une discussion comme ceci, à part ici, vous en avez vu beaucoup en Belgique. Moi, même dans l'été, dans les journaux, au Parlement, on n'en parle quasi pas. Et on se fait submerger par.
Voilà. Vous avez lu le texte du Parlement, le projet de.
C'est quoi le Parlement européen?
Le projet de rapport du Parlement à la Commission sur la robotique.
Non. Mais de nouveau, j'ai un exposé. Bon, mathématiquement, en termes de kilos, bon, avec l'évolution de la démographie, les vieux vont peser trop lourd pour que les jeunes les portent dans leur lit. Bon, c'est mathématique. Bon. Donc, on a besoin des robots. Eh bien, on sera tous vieux et personne ne va nous relever. Autant qu'une machine ne relève que personne. Il n'y a pas assez. Bon, donc vive les robots. Mais au moins qu'on s'en occupe, ne fût-ce que pour... Ah, mais dans les hôpitaux, vous travaillez là-dedans, mais dans les hôpitaux, c'est un sujet très important, la robotique. Il y a des tas de choses dont on a absolument besoin, qu'on a besoin des robots pour les faire.
Il y avait d'autres questions. Oui, mais... on oublie un peu ce
que c'est toi. Hein.
C'est moi.
Vas-y.
Vas-y, crie plus fort.
Un peu loin du moment où j'avais quelque chose à dire sur, quand on a parlé du savoir juif, de la connaissance du savoir-faire.
Oui.
On sait qu'ils ont beaucoup migré à une certaine époque et qu'ils ont énormément travaillé pour les États-Unis, au rêve américain, et pour vaincre et gagner la guerre et la bombe atomique, et par la suite pour développer tous les produits qui ont failli le marché. Et Wiener est quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé sur l'information. Hein, il a fait tous les systèmes de visée, les batteries anti-char, mais il a énormément travaillé sur l'information. Et ce qu'il disait par rapport au fait que Big Data est quelque chose de difficile à gérer, quand on veut décider si on a toutes les données en tête, il disait que l'information, c'est en fait la quantité, une unité d'information, c'est la quantité nécessaire pour prendre une décision. Mmh. Et c'est le fondement de sa théorie qu'il a développé avec Shannon. Ça, c'est un point. Il a aussi beaucoup parlé du golem. Il a une conférence qui s'appelle le golem de Prague. Et le golem, ça existe dans la tradition juive et dans la Bible, d'une certaine façon, si je ne me trompe pas et si je suis moins sûr, mais c'est déjà un robot. C'est déjà un robot qui savait tout faire parce qu'il avait reçu, via un rabbin super puissant, il avait reçu l'action, le verbe, on dirait, chez les chrétiens. On lui a retiré, mais il est toujours à Prague, on peut visiter la maison, et la fenêtre est murée, il ne peut plus sortir, donc de ce côté-là, on est rassuré. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe dans les textes anciens qui ont inspiré, que ce soit les juifs, ou les indiens, ou les chinois, ou les japonais, ou les bouddhistes, il existe des langages plutôt symboliques, mais qui permettent de se repérer dans cette espèce de tempête qui est en train de nous arriver. C'est une révolution industrielle, mais c'est pas au carré, c'est pas au cul, moi je ne sais pas comment on peut l'exprimer, ça va aller tellement vite, on sent tellement arriver la biotechnologie à travers les nanos, etc., etc., et bientôt l'ordinateur quantique qui va nous décoder tous les codes jusqu'à présent bien secrets et qui a une valeur incroyable, mais qui est là, qui arrive. Tout ça, on ne peut le comprendre par des relations de cause à effet. Je pense que ça aussi,
c'est quelque chose. Oui.
On ne peut y aller qu'à l'intuition et à la certitude.
Hein. Et aux valeurs.
Et aux valeurs. Donc il faut y croire. Et moi, je pense que c'est là-dedans qu'on a une chance de s'hyper-connecter. Et alors là, je vous pose des questions entre transhumaniste et humain augmenté, parce que je ne pense pas qu'on peut refuser le progrès. Hein, il y a le train à vapeur, il y a la Formule 1, on est allé sur la Lune, on ira sur Mars. J'ai beaucoup aimé l'épisode avec Philea et sa comète Chury, etc., etc. Donc, je pense qu'on va aller vraiment loin. Le tout, c'est de savoir comment on veut y aller et ce qu'on veut faire. Donc là, des groupes comme ceci, pour moi, sont vraiment très intéressant, même si je ne connais pas grand monde ici. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Et en étant aussi, sans doute, très hyper connecté. Voilà.
Merci. On va tout doucement clôturer, mais je voudrais d'abord qu'on se pose une question, et on n'est pas obligé d'y répondre maintenant, mais qu'on réfléchisse un peu. Les entreprises, comme on ne s'appelle pas philosophie et management pour rien, qu'est-ce qu'on peut faire justement par rapport à ces questions? Quelles sont les responsabilités? Est-ce que tu as des débuts de réponse là-dessus sur les managers, quels qu'ils soient, peu importe le secteur, par rapport à ces questions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire avancer le schmilblick dans le bon sens?
Lancer des débats comme ça. Moi, j'aime bien la chanson d'Aznavour, il faut savoir quitter la table. Donc, il y a des moments, et d'ailleurs, il y a des gens qui le font. Moi, j'étais voir Snowden la semaine passée. Bon, bien sûr, c'est tout à fait orienté, on sait dès le début le message qu'il veut faire passer et on sort avec le message qu'il veut faire passer en disant, mais bon, Ben, j'espère qu'il y a quand même des gens qui vont réaliser l'importance de lui. On le voit bien, c'est de là que c'est venu, quoi. C'est pas possible. On ne peut pas laisser passer. Il y a des choses. Mais je crois que c'est beaucoup plus l'individu dans l'entreprise que l'entreprise elle-même. Mm-hmm.
Mais qu'est-ce que l'individu peut faire dans l'entreprise par rapport à ces questions? On est un peu dépassé là, on en parle. Et moi j'aimais bien ce que tu disais sur le chinois là, dans ton groupe, qui dit on mange les deux. C'est une belle analogie. Qu'est-ce qu'il a fondamentalement voulu dire selon toi?
Eh bien, un peu tard. On y va quoi.
On y va.
On y va et on va essayer de limiter la casse, mais on ne va plus se poser la question de savoir si l'homme A entraîne B ou B entraîne A. Et je crois que c'est beaucoup ça, parce que d'une certaine manière, même les robots, les algorithmes existaient dans l'Antiquité. Hein. Donc, Eratosthène a fait un algorithme pour savoir si un homme était premier. Donc, tous ces trucs existaient, mais tout à coup, il y a des seuils qui se passent. Mm-hmm. Et Big Data, par exemple, c'est très mal choisi comme nom. Parce qu'on dit qu'il y avait data, maintenant c'est big data, quoi. Donc, non, c'est autre chose. C'est autre chose. Et on est souvent dans... Et c'est nouveau un problème de vocabulaire. J'ai demandé à mes étudiants l'année d'avant. Bon, quand on voit une imprimante 3D fonctionner, on se rend compte que ce n'est pas une imprimante. Alors, pourquoi l'appelle-t-on comme ça? Bon. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que quand quelque chose de tout nouveau apparaît, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et qu'on essaye par analogie de se raccrocher à quelque chose. Comme on dit les chemins de fer, c'est quand même incroyable, hein, donc les chemins de fer. Bon, c'est parce qu'il n'y avait pas de rail, puis on a mis du fer, des chemins de fer. Et donc, on voit bien l'importance des mots. Et tout ça, moi je crois qu'on peut faire plus de philosophie en entreprise. Donc vraiment apprendre à raisonner de manière critique, constructive, dépassionnée, etc., etc.
Donc voilà le mot d'ordre pour les managers.
Ah ben ça, j'en suis convaincu.
C'est des formations en philo pour leur cas.
Bon, j'ai une
question pour les avocats.
Oui.
Il y a des avocats dans la salle.
Il y en a là-bas.
Oui. Une voiture pilotée par un algorithme. Mmh. Entrée en collision avec un bus pilotée par un autre algorithme.
Oui.
La justice des algorithmes, donc quelqu'un qui va pouvoir analyser, et la responsabilité de l'algorithme pour définir à la fin qui est le
Est-ce que le modèle social n'est pas condamné par... On a eu la transformation, la robotisation, et maintenant le fait qu'on remplace l'humain, l'intelligence par l'algorithme, est-ce que ce n'est pas une condamnation du modèle social? Est-ce qu'il ne faut pas réinventer le modèle social? Parce qu'on ne pourra pas maintenir l'emploi et maintenir l'emploi dans l'entreprise.
Quel âge a le modèle social? Quel âge a-t-il?
Je veux dire, c'est après la guerre.
70 ans, il y a 70 ans. Il y a 70 ans, il y avait combien d'habitants sur la planète? 2,5 milliards. Bon. Et donc, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, dans un monde qui n'a plus rien à voir, on essaie d'utiliser le même modèle social. Et le problème, il est là. Ce modèle était génial, mais le monde est tellement différent qu'il faut un autre modèle. Il faut des autres catégories, etc. Par exemple, moi je suis, entre guillemets, pensionné, parce qu'il n'y a pas de catégorie entre pas pensionné et pensionné. Donc, je ne suis pas pensionné, je suis pensionné. Ça n'a pas de sens, parce que je gagne encore ma vie, etc. Donc, tout est faussé. Il faut des nouvelles catégories, il faut un nouveau modèle social. Et c'est une excellente remarque, parce que, à l'époque, il y a 70 ans, je ne sais pas, il y avait vraiment un pensionné pour 4, aucune idée. Mais les chiffres sont complètement différents. Évidemment que ça ne marche plus. Évidemment que ça ne marche plus. C'est tout le paradoxe des idées. Pour qu'une idée porte des fruits, on ne peut pas y toucher. Bon, si vous changez tout le temps l'idée de votre maison, vous n'avez jamais votre maison. Bon, un jour, il faut arrêter, d'ailleurs, on dit arrêter les plans. Bon. Donc, pour qu'une idée porte des fruits, on ne peut pas y toucher. Bon, mais le problème, c'est que dans le monde où l'idée se développe, lui, il évolue. Donc forcément, l'idée, un jour, elle est out. Et il faut une nouvelle idée. Et il faut des nouvelles catégories. Il faut un nouveau modèle. Il faut... Exactement. C'est exactement ça. Et la remarque sur le savoir, quand les maths peuvent entrer complètement dans la tête d'un prof d'UNIF, c'est pas la même chose que quand il ne sait plus mettre que 5%. Parce qu'il y a un problème de choix. Quel 5%? Donc il y a une nouvelle question qui se pose, etc., etc. Et le modèle social, aujourd'hui, il va exploser. Il va exploser. Et moi, je travaille beaucoup en France. Si, avec les mesures, je sens que ça commence. Pourquoi? Tout le monde s'accroche. Et la question n'est pas de changer ou de ne pas changer. La question, c'est qui va piloter le truc? Est-ce que je vais changer ou on va me changer? Je vais innover ou on va m'innover? Bon, c'est... C'est là la question.
Parce que l'algorithmie va tellement remplacer. Enfin, non, incroyable. Enfin, quand on voit le combat de Taximètre contre Uber, c'est ridicule. Les voitures autonomes sont là. Les deux sont condamnés. Donc, d'ailleurs, Uber travaille déjà depuis à sa reconversion et à ça depuis
un quand même, excuse-moi de beaucoup parler, mais je parle d'un sujet que je connais très bien, sur le plan académique, etc. Et donc, qu'est-ce que c'est fondamentalement un modèle mathématique?
Un modèle, voilà. Un modèle, c'est une simplification de la réalité avec un qui a pour objet d'être utile.
Oui, mais les modèles qu'utilise. Allez, on va prendre. Comment un modèle économique classique, le modèle de type hédoniste, il rejoint la question de la valeur. Qu'est-ce qu'il vise? Il vise, par exemple, à valoriser des biens complexes comme de l'immobilier. Il fait quoi? Il prend l'avis de tout le monde, il le dette, et puis il donne une valeur de marché, un prix d'équilibre. Mmh. Et je vais le dire encore autrement, mais d'une manière très simple. Qu'est-ce que quelqu'un. Ça, c'est la valeur. C'est quoi quelqu'un de beau? Les psychologues.
De beau.
C'est quoi quelqu'un de beau? De beau. Les psychologues ont fait des études, on se rend compte à ce moment-là que le cerveau, finalement, fonctionne d'une manière assez mathématique. Mmh. Et il est mimétique de type du modèle. À l'insu de notre plein gré, on fonctionne comme des modèles, sauf que les marges d'incertitude, etc., ne sont pas les mêmes, mais ça revient au même. C'est quoi quelqu'un de beau? On fait des moyennes de tous les traits physiques qu'on rencontre dans une population. Et c'est pour ça qu'en règle générale, on préfère les gens qui sont endogamiques, on préfère les gens qui sont dans la même population, parce qu'on a fait des moyennes, et la personne la plus bête, on dit toujours, et donc on fait un moyen, on présente ce visage moyen aux personnes, ils vont dire, ah, il est beau. Il est beau, pourquoi? Donc on est programmé par toutes les personnes qui sont autour de nous. Et fondamentalement, quand on regarde les couples, ils se ressemblent toujours. Ils vont se dire, tiens, comment se fait-il qu'ils se ressemblent? Parce que la personne qu'on voit le plus souvent dans le miroir, c'est soi-même. Et donc on fait une moyenne de sa tronche, et puis on épouse la personne qui nous ressemble le plus. Donc, ok, et donc la question de la valeur, effectivement, il y a une réflexion théologique là derrière. Je suis d'accord. À un moment, il faut peut-être. Mais la valeur, quand on prend la question de la valorisation, et Dieu sait si c'est un sujet que je maîtrise au niveau économique, mais par ailleurs, c'est vraiment qu'une question moyenne, quoi, finalement. Point d'arrivée, la valeur de marché. Mais c'est celle-là qui a triomphé, c'est le problème des subprimes. Et c'est pour ça qu'Uber a existé. On posait la question de l'avocat, le but, les assurances, la question du risque et la responsabilité, on l'élimine. Et la question du patrimoine, on l'élimine aussi. Demain, ça n'a plus de sens d'avoir une voiture individuelle et personnelle. Donc, effectivement, tous les paradigmes vont péter. Et donc, il faut s'apprendre. Et c'est pour ça que la pensée juive est fabuleuse. Parce qu'elle a une souplesse que la pensée judéo-chrétienne n'a pas, on est rigide dans notre truc.
Les paradigmes vont péter. On peut dire deux choses. On va les changer ou on va nous les changer. Eh bien, il faut un choix à faire. Nous allons changer nous-mêmes plutôt que nous faire changer. Voilà, c'est ça mon choix.
Sur ces bonnes paroles de notre grand sage, je vous remercie.
Merci à tous. Alors, il y a un des environ 20 personnes. La conférence tout à l'heure est sur YouTube, s'appelle Homo Informaticus, et le texte de la conférence est sur le site de la Ligue Belgique, celui de Philosophie Magazine, et encore là. Ouais.
Et pour ceux qui veulent réécouter notre débat et la présentation de Luc, on l'aura en podcast et elle sera mise dans quelques jours sur le site de l'UNEF. Merci à tous, vous recevrez une invitation pour le prochain séminaire le 10 janvier avec Dominique Cardon. Voilà, bonne fin d'année.
Merci.